Ce soir, on va faire un petit partage, une méditation sur une couple de versets de la parole de Dieu, parce que le Seigneur, je crois que le Seigneur veut nous parler là-dessus. C'est un sujet que je pense que tout le monde devrait méditer pour faire le point. Le titre du message, c'est « À qui voulez-vous plaire? À Dieu ou aux hommes? » Quand on dit ça, à qui voulons-nous plaire, tout de suite en partant, on dit, ben moi j'ai accepté Jésus. Oui, c'est correct. On a accepté Jésus il y a X temps. On s'est engagé à le suivre, on s'est repenti de nos péchés, puis il a commencé un œuvre pour nous changer, pour nous transformer. Puis on s'attache à lui, puis on voit encore qu'il nous change. Mais dans tout notre comportement, quand on vit là, quel comportement adoptons-nous devant les autres quand on rencontre des gens autour de nous autres? Ou bien quand on prend des décisions, est-ce que c'est en fonction des autres qui nous entourent qu'on prend des décisions ou on s'arrête sur qu'est-ce que Dieu lui pense sur ces sujets-là quand on prend des décisions? Est-ce qu'on prend des décisions pour suivre les autres, pour se faire accepter par les autres? Où on veut réaliser, qu'on réalise dans notre vie, « Ah ben moi, je suis un enfant de Dieu, je lis la parole, puis quand j'ai une décision à prendre, je veux méditer le sujet pour lequel je m'engage à prendre une décision, puis je veux bâtir mon raisonnement ou ma décision face à ce que la Bible dit. » Ou, comme dans d'autres occasions, recherchons-nous à profiter du meilleur des deux mondes. Parce qu'il y a des fois, on veut être chrétien parce qu'on veut être sauvé, puis en même temps, on voudrait profiter de tous les péchés puis les plaisirs de ce monde, comme si on pourrait profiter des deux mondes en même temps. Mais je vous le dis tout de suite, c'est impossible qu'on marche des deux côtés en même temps. Soit qu'on marche selon Dieu, puis que l'on grandit spirituellement, puis l'on est appelé à se séparer du monde, ou soit que on recherche les choses du monde, puis on vit selon le monde, mais notre vie chrétienne est superficielle ou religieuse. C'est comme une religion. On n'a pas de profondeur dans notre vie chrétienne si on pense qu'on peut profiter des deux mondes. Quelles sont nos motivations quand on prend des décisions, quand on marche dans cette vie? Puis je pense qu'il est important de faire le point pour réaliser nos erreurs. Est-ce que ça se peut qu'on ait une mauvaise motivation quand on marche dans notre vie, quand on est parmi le monde? Éphésiens 5, le verset 10 nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire qu'il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu aime? Ou qu'est-ce que Dieu aime pas? Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Est-ce qu'on le sait? Dans la routine, là, pensez à votre routine. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Puis après ça, quand vous mangez, quand vous allez travailler, ou quand vous allez faire les commissions, ou quand vous allez faire du bénévolat, ou quand vous allez faire n'importe quelle activité, aller en visite à quelque part, avons-nous pris le temps de méditer quelle devrait être notre conduite parmi tous ces moments-là? Quelles devraient être nos paroles dans ces moments-là? Quelles devraient être nos pensées dans tous ces moments-là? Je me lève, je prends 5 minutes de prière, puis là, après ça, je commence ma vie humaine, puis là, on vit toute la journée à réfléchir juste aux choses de ce monde, puis à agir comme toutes les autres agissent, même si je suis avec des gens non chrétiens, puis j'agis comme eux autres, je parle comme eux autres, puis j'agis comme... ma vie est pareille aux autres. On demanderait à quelqu'un d'essayer de dire, y a-t-il un chrétien ici? Puis par notre conduite, il ne serait pas capable de nous différencier parce qu'on serait pareil à tout le monde. Dans ce verset-là, ça dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, mais prenez pas part aux œuvres sans fruit des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il y a des affaires dans la vie que, si on commence à comparer ça, là, les gens, ils font toutes, mais nous, les chrétiens, on ne doit pas le faire. Que ce soit au niveau de notre langage, notre manière d'agir, comme un exemple. Tout le monde aujourd'hui, ils couchent avec n'importe qui, puis ils ont des chums, des blondes, ça se marie plus, puis ils se fréquentent pendant une semaine, deux semaines, un mois, ils ont tout comme s'ils seraient ensemble depuis 20 ans, ils se laissent, puis ils s'en vont avec un autre, ça a même affaire, tout. Puis là, on parle juste de ce sujet-là, mettons, mais que ça peut être le sujet du langage. Tout le monde se sac, tout le monde blasphème, tout le monde prend le nom du Seigneur en vain, le monde dit des grossièretés, raconte des jokes impurs, tous les comportements qu'on peut ils comptent des menteries, ils racontent des paroles, des blessantes sur les autres, ils parlent dans le dos de l'autre, ils cabèrent, ils rapportent les choses que les autres font. Tous les comportements qui sont des œuvres des ténèbres, les chrétiens sont appelés à examiner cela. Puis quand tu examines, là, c'est examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est un examen, là. T'es en train de faire un examen. T'es en train d'examiner, de sonder, d'analyser tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qui se passe dans les actions, afin de trouver ce qui est agréable au Seigneur, puis ce qui ne l'est pas, puis de condamner les œuvres des ténèbres. Si on va plus loin dans ce raisonnement-là, à qui voulons-nous plaire, c'est la question. Cherchons-nous à prendre des décisions à cause de la popularité? Parce que ça se passait aussi dans le temps de Jésus, ça, dans Jean 12, le verset 42. Ça nous dit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Voyez-vous, eux autres prenaient des décisions à cause de la popularité, parce que les Juifs, chefs religieux, là, ils croyaient en Jésus, mais ils n'osaient pas le dire qu'ils croyaient en Jésus. Et pourquoi qu'ils n'osaient pas le dire? C'est parce qu'il y avait la crainte d'être exclu de la synagogue. Ça veut dire, t'étais plus populaire, là, si tu croyais en Jésus, puis tu l'avouais que tu croyais en Jésus. Tu parles de Jésus, toi, ils vont te mettre à part. Ils vont te jeter dehors de leur religion. Ils vont te jeter dehors de leur synagogue. Ils vont te jeter dehors de leur groupe d'amis. Ils peuvent te rejeter. C'est ce qui se passait aussi dans ce temps-là, dans le temps de Jésus. Puis les gens qui aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, ils vont prendre une décision de dire, « Ben moi, là, je veux plaire à mes chums. Je veux plaire à ma gang, à ma religion. Je le dirai pas que je crois en Jésus. Je veux pas affecter personne. Je le dirai pas que je crois. Je l'avouerai pas. » Même si c'est bien évident, même si j'ai vu plein de signes que c'est vrai que Jésus il est le Sauveur puis il est le Messie, je l'avoue pas parce que je veux pas me faire passer pour dans la gang des chrétiens. Je veux me faire passer, je veux rester populaire avec ma gang de ma religion ou de ma gang d'amis à mon travail. Puis là, on se tiendrait plus avec les gens du monde dans le but d'être comme eux, puis de pas paraître comme un rejeté. Puis ça s'appelle qu'on aime plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. C'est comme si dans cette phrase-là, c'est en train de dire que ces hommes-là, quand ils t'encouragent parce que tu te sens encouragé par eux, parce que t'es pareil à eux, puis tu veux t'identifier à eux, tu recherches la popularité avec ces hommes-là. Cherche à être populaire, à être accepté, à être aimé, à être glorifié par eux. C'est comme si t'es attiré à rester avec eux parce que t'aimes la satisfaction que ces gens-là vont t'apporter. T'aimes la satisfaction de ces gens-là plus que la satisfaction que Dieu pourrait être ton, de sur ton bord. Tu te sens consolé par Dieu, tu te sens restauré par Dieu, tu te sens béni par Dieu. Mais il y a un feeling, là, quand tu es en contact avec Dieu, puis tu prends position pour Dieu, tu vas avoir une fierté d'être chrétien. Mais il y en a qui, ce feeling-là, ils l'ont pas, puis il est mieux garder la popularité de leur chum que d'être vraiment à part, puis de se consacrer pour le Seigneur, puis de pas chercher à imiter les gens, puis même au prix de payer de ta popularité, puis de te faire rejeter, t'es prêt à prendre position pour Jésus parce que t'aimes plus la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Dans notre marche d'aimer les hommes parce qu'on veut plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu, sommes-nous des gens qui cherchent à tromper les autres? 1 Thessaloniciens 2:3, ça nous dit, c'est Paul qui parle, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul, lui, il met clairement sa table. Il dit, nous, là, on cherche pas à tromper personne. On marche pas par des motifs impurs, ni sur la fraude. Parce qu'il y en a qui prêchent Jésus pour faire une pièce, parce qu'ils sont mercenaires. Leur but, c'est de faire de l'argent. Ils cherchent pas à se donner pour l'œuvre. Ils cherchent à trouver dans l'œuvre ce qui serait profitable pour leur ventre, pour leur poche. Fait qu'ils prêchent l'Évangile pour leur paye, puis ils ne pensent pas à se donner pour l'œuvre de Dieu. Puis l'apôtre Paul lui dit, nous autres, là, il n'est pas question de marcher dans des motifs impurs ou dans fraude. Nous autres, là, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, puis on en parle pas pour plaire aux hommes, on cherche à en parler pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Quand un prédicateur prépare ses messages, quelqu'un qui aime vraiment Dieu, il va vouloir amener les messages que Dieu met selon sa parole. Il cherchera pas à mettre le message plus mou, plus léger, plus facile à avaler, dans le but de ne pas offenser personne. Parce que dans l'Église, des fois, il y en a qui devraient se faire dire, arrête tel et tel péché, arrête de faire ces choses-là, mais le pasteur n'ose pas en parler parce qu'il cherche à plaire à l'homme plutôt que de plaire à Dieu. Fait que là, il veut bien faire, il veut pas perdre aucune brebis, mais le fait qu'il dit pas qu'est-ce qu'il a à dire, c'est qu'il est en train de montrer que c'est plus important sa relation avec cette personne-là que sa relation avec Dieu. On est prêt à tosser Dieu, tosser de cacher ce que Dieu a à dire pour conserver l'amitié ou conserver la fraternité avec ce frère-là. Quand la Bible a dit, si la personne a péché, va et reprends-la entre toi et lui seul. Puis après ça, si il t'écoute pas, amène des témoins. Puis s'il t'écoute pas, dis-le à l'Église. Puis s'il écoute pas, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Il est mis en fraternité. Mais est-ce que on aime assez Dieu pour être vrai avec sa parole, puis dire les vraies affaires, les dire poliment, mais au moins de les dire, comme c'est écrit dans la parole, que les gens, dans les derniers temps, ils vont aimer les choses agréables, fait que ils vont se donner des docteurs qui leur enseignent des choses agréables, ils supportent plus la sainte doctrine. Fait que, on est-tu rendu au niveau qu'on trompe les autres? dans le sens que on va utiliser des tromperies pour essayer de conserver le monde plutôt que de dire la vérité, puis de au risque d'en perdre un. Si on pousse encore le raisonnement à ce sujet-là, irions-nous jusqu'à désobéir à Dieu par la peur des autres, par la peur des conséquences? Dans Actes 4:18, là, les chefs religieux avaient fait du mal aux chrétiens, les avaient jetés en prison, là, tout ça. Puis les ayant appelés, après ça, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Là, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Voyez-vous, les gens, dans ce temps-là, ils haïssaient tellement l'enseignement de la parole de Dieu que là, ils ont commencé à enfermer les apôtres en prison, puis des fois même en battre de verge, puis dans d'autres moments, ils ont même tué des chrétiens. Parce que les chrétiens parlaient de Jésus. Là, dans ce passage-là, ça dit qu'ils ont défendu de parler de Jésus. Ils n'avaient plus le droit d'en parler. Est-ce que les disciples, les apôtres, là, ont écouté ce que les gens leur ont dit? Parce que là, les gens, là, ils ont essayé d'y faire peur aux disciples pour que les disciples arrêtent de parler de Jésus. Est-ce que nous, on a peur des autres qui nous entourent? Est-ce que les commentaires des autres ou les menaces des gens qui nous entourent nous influencent au point de dire, « Ah, ben là, j'ose plus être chrétien. Ah, j'ose plus parler de Jésus. Là, si je parle de Jésus, il va me faire du mal, il va me cracher dessus, il va me rire de moi, ils vont me rejeter, ils vont me jeter dehors de ma job. » Ça m'est arrivé, moi, à plusieurs emplois que j'ai passé devant au bureau, puis rencontré le boss de la place où je travaillais, puis que le boss me disait, t'arrêtes de parler de Jésus. Il y a des fois qu'ils ont voulu me faire signer des papiers pour me dire que là, je m'engage. Moi, j'ai dit, je signe à rien. Puis moi, je suis contre cette idée-là. Puis moi, je vais continuer à en parler. S'il y a quelqu'un qui veut que j'y en parle, je vais y en parler pareil. Au point que dans mon cœur, là, je croyais que Dieu est encore plus puissant que ce boss-là. Puis que Dieu est capable de jeter dehors ce boss-là parce qu'il oserait me faire du mal parce que moi, je parle de Dieu.
C'est ça qui est arrivé.
Puis c'est pas ça qui est arrivé, parce que j'ai pas eu besoin de me faire jeter dehors, puis j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Mais ça m'est arrivé à plusieurs fois que j'ai résisté au boss qui voulait me faire des menaces et du chantage. Moi, j'ai dit, si quelqu'un veut pas que j'y en parle, j'y en parlerai pas. Je vais respecter si quelqu'un n'en veut rien savoir. Mais si la personne, elle veut m'entendre parler, je vais y en parler. C'est pas mon boss qui va m'empêcher de parler. C'est sûr que je m'arrête pas de travailler pour pouvoir parler. C'est pas sur le temps du travail. Je suis capable, ça peut être dans mon break que je parle, ça peut être dans mon heure de dîner, mais je parle de Dieu quand que je veux, puis je me laisse pas intimider par les gens. Mais est-ce que on se fait intimider par les autres? Est-ce qu'on a peur de ce que les autres disent ou ce que les autres font? Puis toutes les menaces, puis le manière de te mettre une pression pour t'en parler de Jésus. Est-ce qu'on est on est du genre à se laisser aller, ou on est du genre, moi, je vais continuer à plaire à Dieu? Puis là, c'est ce que les apôtres ont parlé. Ils ont dit, jugez-en vous-même. Y est-tu plus convenable qu'on plaise à Dieu plutôt que vous plaire à vous autres? Il dit, on peut pas ne pas en parler des choses qu'on a vues puis entendues. C'est tellement vrai que Jésus est venu, puis que sa puissance se manifeste, puis que sa parole est vraie, que on peut pas ne pas en parler. pour continuer encore dans la même lignée de pensée, à qui voulons-nous plaire? C'est encore la question au début. Toute notre conduite doit être animée du désir de plaire à Dieu. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait dans nos paroles, dans nos agissements, ça devrait être animé d'un désir de vouloir plaire à Dieu. Quand tu es chrétien, quand tu t'engages à suivre Jésus, c'est parce que tu veux lui plaire. Tu veux vivre d'une manière qui lui fait plaisir à lui. C'est sa gloire à lui qu'on recherche et non pas la gloire des hommes. Fait que d'un passage dans Éphésiens 6, ça nous parle de ça, que même quand tu travailles pour quelqu'un, comme il y a le verset, il dit « Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Comme à Christ, non pas seulement sur leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Fait que quand tu es en train de servir, même quand tu travailles, tu es au travail, faut pas faire les choses parce qu'on veut plaire à notre boss. Faut faire les choses parce qu'on veut plaire à Dieu. Tout notre travail, faut apprendre à effectuer notre travail parce qu'on veut servir le Seigneur qu'on est là. Parce qu'on veut plaire au Seigneur qu'on fait ce travail-là. Tout ce qu'on a à faire dans notre vie, que ce soit un rôle de femme envers son mari, c'est la même affaire, ou de mari envers sa femme, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour vivre pour Dieu d'une manière qui plaît à Dieu. Faut apprendre à être animé, d'être motivé par le désir de plaire à Dieu, en tout temps. On se lève le matin, on a le goût de plaire à Dieu, on va travailler, c'est pour plaire à Dieu, on va payer nos comptes, c'est pour plaire à Dieu, si tu fais à manger, c'est pour plaire à Dieu, si tu manges, c'est pour plaire à Dieu, tu vas manger en rendant grâce, tu veux glorifier Dieu dans tout ce que tu vis. En fin de compte, toute notre vie doit être comme si on est des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. C'est important d'arriver à ça parce que Paul, il nous en parle dans la parole, il dit que si nous voulons obtenir la faveur de Dieu, nous devons être fidèles à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée, c'est quoi d'obtenir la faveur de Dieu? Quand tu veux obtenir la faveur de quelqu'un, surtout de Dieu, tu veux obtenir ses bénédictions, tu veux obtenir ses grâces. Quand tu obtiens ses faveurs, c'est parce que tu lui plais. Puis là, Dieu, il est tellement content de t'avoir allé qu'il va te bénir encore plus. C'est important. Dans Galates 1:10, ça nous parle un peu dans ce sens-là, Paul qui dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? » Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Lui, c'était évident dans sa vie, moi, je suis un serviteur de Christ. Ma vie, là, c'est plus pour plaire aux hommes. Il s'était consacré à l'œuvre de Dieu, puis sa vie était servir Dieu. Il évangélisait, il priait, il s'occupait des églises. C'est un homme impliqué abondamment dans l'œuvre de Dieu, puis il se sanctifiait, puis il se purifiait, puis il fuyait les choses du monde pour plaire à Dieu. Il dit, si je chercherais à faire la faveur du monde, là, mais je ne serais pas en train de servir Dieu. Je ne serais pas un serviteur de Dieu. Parce que si tu te rends, t'acceptes ce rôle-là d'être serviteur de Dieu, c'est parce que tu ne veux plus rien savoir de vivre selon le monde. Tu te consacres à Dieu, puis tu marches pour Dieu, puis tu persévères pour Dieu jusqu'à la fin. Tu vas en faire toute une différence dans ce monde quand tu vas être capable de te consacrer à Dieu puis de vivre à 100% pour lui. Sommes-nous prêts à aller plus loin dans l'obéissance au Seigneur? Parce que des fois, on se contente du niveau où ce qu'on est rendu. Ah, ben moi, j'ai accepté Jésus, v'là 20 ans, puis c'est assez. Un autre va en mettre un petit peu. Ben moi, je vais à l'église à tous les dimanches, puis c'est assez. Un autre va dire, moi, je prie, là, à tous les repas, j'y dis merci, puis c'est assez. Ben, est-ce vraiment assez? Est-ce une vie totalement dévouée pour l'œuvre de Dieu quand on en reste à des choses...
Ben, une petite
routine, là, puis tellement... Hein, c'est, je sais pas que c'est insignifiant, mais c'est minime.
C'est rien à comparer de ce que tu pourrais faire.
C'est rien à comparer de comment est-ce qu'on pourrait se consacrer si on se donnerait à fond, qu'on pourrait devenir un serviteur engagé du matin au soir à penser au Seigneur, puis à l'œuvre du Seigneur, puis à prier pour l'œuvre de Dieu, puis à évangéliser, puis à aller à l'église, puis s'impliquer ici, puis s'impliquer là, puis faire des choses en communion avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4.1, Paul il nous en parle de cette pensée-là. Il dit, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Paul est en train de dire aux gens, comme vous l'avez appris, là, comment servir le Seigneur puis comment plaire à Dieu, vous nous avez vu comment est-ce qu'on était, nous autres. Mais continuez à le faire de progrès en progrès. Ça veut dire, si tu as réussi à atteindre un niveau qui est à 25% de consacré pour le Seigneur, ben c'est pas encore assez. Cherche à avoir encore plus de progrès puis de consacrer à 100% pour le Seigneur. Faut pas en rester juste à... Oh, dans la ligne de l'acceptable. Oh, c'est acceptable. Au niveau, j'en ai assez fait pour le Seigneur. J'en fais assez pour le Seigneur. J'en veux pas plus, puis j'en ferai pas plus. C'est pas ça qui est la pensée de Dieu. Je n'ai jamais fait assez. Je suis encore un serviteur inutile. Je fais encore assez, rien dans... Je veux en faire plus, puis je veux me consacrer plus. Je veux me donner plus. Puis let's go, j'avance avec la grâce de Dieu. Dieu cherche des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Faites-vous partie de ceux qui sont prêts à se donner à 100% puis à se donner jusqu'au bout? Dieu, il fait un appel, là. Il parle à nos cœurs. Hébreux 10, 38, il dit, « Mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu qui parle, là, Dieu, il dit, mon âme prend pas plaisir en lui. J'ai aucune satisfaction dans cette personne-là si elle abandonne. Dieu a pas de satisfaction. Non seulement qu'il prend pas plaisir, mais il sait que ceux qui rejettent, ceux qui abandonnent comme ça, ils se retirent pour se perdre. Il dit, mon juste, là, il va vivre par la foi. Quelqu'un qui le sait ce qu'il a à faire, puis qui avance avec foi, puis persévère par la foi, puis persévère, prêt à aller jusqu'au bout pour plaire à son Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle, chacun de nous. Parfois, là, il y a des décisions pour suivre Jésus, puis de se consacrer. Il y a des décisions à prendre qui nous amènent des pertes. Ça coûte quelque chose d'être chrétien. Savez-vous, c'est quoi la première chose que Dieu nous demande d'être prêt à perdre pour s'engager à suivre Jésus?
Son ancienne vie.
Son ancienne vie.
Nos familles.
Ça peut arriver qu'on perd nos familles. Mais là, quand il dit « Quiconque veut venir après moi »,
il se charge de sa
croix. Non, le premier mot qu'il dit, c'est pas ça. Qu'il renonce à lui-même.
Ben, c'est ça que je voulais dire.
Renoncer à soi-même, là.
Ça veut dire renoncer à son ancienne vie. Puis
pas rien que l'ancienne.
Plaisir.
Pas rien que l'ancienne. C'est renoncer à toute ta vie.
Ah, mais c'est exactement ce que je voulais dire, là.
Oui, mais pas juste renoncer au péché. Il veut même que tu renonces à tout ce qui est le bien que tu pensais que tu pourrais encore t'avoir pour toi. En t'en niant, Seigneur, Je renonce à moi-même, je prends ma croix et je veux te suivre. Puis ça, là, ça veut dire, tu renonces à tes buts, à tes rêves, à tes objectifs, à tes passions, à tes désirs, à tes péchés, à tout ce que tu as comme idée de pour ce qui serait pour toi un avantage. Là, tu dis, Seigneur, à partir de maintenant, je renonce à tout, puis je m'engage à te suivre, je prends ma croix. Puis la croix, c'est quoi que ça représente, prendre la croix? Ça veut dire de mourir. Parce que le chemin de la croix, là, c'était pour s'en aller être crucifié. C'est un chemin là, que tout le long que tu marches avec ce chemin-là, tu fais rire de toi. Tu fais rire de toi, tu te fais humilier, tu te fais cracher dans la face, tu te fais arracher la barbe, tu te fais donner des jambettes, puis tu te fais donner des coups de bâton, puis le monde te lance des roches, puis tout le long que tu marches, c'est la honte, tout le long, c'est l'ignominie, c'est le rejet, tout le monde se moque de toi, ils sont à chaque bord de toi, puis ils te persécutent, puis ils te crient des bêtises tout le long. C'est ça que Jésus a eu quand il a pris sa croix. Là, il dit à chacun de nous de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix. Toutes ces injures-là, puis ces bêtises-là qu'on va entendre, c'est pas Dieu qui nous les dit, c'est le monde. Il faut être capable là, d'en arriver à prendre une décision pour Dieu, de dire, moi, je veux plus marcher selon le monde, je veux marcher selon Dieu. C'est peut-être humiliant d'être chrétien. Ça coûte peut-être quelque chose d'être chrétien, ça coûte quelque chose, pas peut-être, ça coûte quelque chose. Je renonce à ma vie terrestre. Il dit, celui qui conserve sa vie, la perdra. Puis celui qui perdra sa vie à cause de moi, puis de la bonne nouvelle, c'est ça qu'il dit dans Matthieu 10, 29. Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça coûte quelque chose d'être chrétien. Ça coûte quelque chose de marcher en chrétien. À qui voulons-nous plaire? À Dieu ou aux hommes? Je finis avec un dernier verset. Il y a un grand avantage de plaire à Dieu. Il y a un grand avantage de chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu cherches à plaire à Dieu, c'est toute ta vie qui change. C'est un mode de vie que tu as adhéré. Tu t'es converti à Christ, ça veut dire que tu t'es converti à son enseignement, ça veut dire que ta vie, c'est d'obéir à Christ. Puis dans 1 Pierre 3, le verset 10, ça dit, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie puis voir des jours heureux, mais qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Puis là, on va voir pourquoi. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Quel genre de personne qu'on veut être? Quelqu'un qui reçoit les faveurs de Dieu? Savoir que Dieu tourne sa face vers toi, puis qu'il est fier de te voir aller, puis qu'il écoute tes prières, puis t'es exaucé. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de tout ce que le monde peut offrir avec ses plaisirs, puis sa perdition. Je pense qu'il est important qu'on réalise qu'on doit apprendre à marcher pour plaire à Dieu, non seulement pour les choses que ça peut nous apporter présentement, mais en plus, pour qu'est-ce que ça va nous donner pour la vie éternelle. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ces enseignements, Seigneur, qui nous encouragent à se consacrer à toi, à vouloir vivre non selon le monde, mais selon ta volonté, d'une manière pour te plaire. C'est ce que je veux faire. Je veux te plaire, je veux te servir, je veux marcher dans tes voies, je veux faire ta volonté. Apprends-moi, donne-moi du discernement afin que chaque décision que je prends, que ce soit quelque chose qui est conforme à ta volonté. Je veux te plaire, je veux te servir, je veux te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.